Chapitre 16. La bibliothèque était une des plus belles pièces du château de Southminster. Ce n'était pas un cabinet de bibliophile. On n'y trouvait ni éditions rares du Décaméron, ni Bible de Caxton, ni livre d'heures sans prix, ni Virgile d'Alde ou d'Elzévir. C'était une bibliothèque de liseurs. Pour qui voulait s'instruire ou se distraire, elle ne laissait rien à désirer. La pièce était spacieuse et offrait un coup d'œil superbe avec ses belles reliures, garnissant les murs depuis le parquet jusqu'au plafond. Car si Lord Southminster n'était pas un curieux de livres rares, c'était un fin connaisseur en reliures. Ce soir-là, aucun des nombreux visiteurs ne songea même à ouvrir un livre. La pièce était transformée en salle d'exposition. Deux longues tables étaient chargées des cadeaux de noces que les parents et amis avaient prodigués à Lady Almira. Chaque objet portait le nom du donateur, ce qui ajoutait un grand attrait à l'exposition. Chacun voulait savoir ce que son voisin avait offert. Bien des visiteurs qui avaient fait leur cadeau étaient anxieux de voir l'effet qu'il produirait. Mrs. Scobble était dans son élément. Elle expliquait tout, s'extasiait sur la beauté de chaque chose. Eût-elle assisté à l'achat de tous ces objets, elle n'en aurait pas mieux connu la valeur. « Regardez, disait-elle, ce chandelier d'argent offert par les ouvriers de Sir Ponto, et aussi délicatement ciselé qu'un bracelet. Je ne crois pas que Garrard... Oui, c'est bien Garrard, et jamais mieux fait. Quelle adorable mythologie! Cet enfant joufflu, ce bouc et tous ces faunes agitant des cymbales, c'est délicieux !» « L'éducation de Jupiter, je suppose, » insinua le capitaine Winstanley. « Assurément, ces faunes lui enseignent la musique. Avez-vous vu la cave à liqueur, chère Mrs. Tempest ? C'est la chose la plus exquise, un cadeau des gens de Southminster. Peut-on imaginer rien de plus charmant ? Et cet écran si finement brodé par Lady Ringwood d'après un tableau d'Alma Tadema ? Et ceci et cela ? » Nos dames firent le tour des tables avec d'autres visiteuses tout aussi enthousiastes. Éventails d'ivoire sculptés, dentelles, boîtes à gants en vieil argent, buvards en malachite, diamants, perles antiques, tout fut scruté et détaillé. Ce qui, dans ce chaos, se faisait le plus remarquer, c'était une rivière de diamants donnée par le comte de Southminster et un cachemire des Indes envoyé par Sa Majesté. Et une paire de vases en craquelé, un service de table en vieux sèvres bleu de roi. Tout cela est très intéressant pour les dames qui font tapisserie, dit le capitaine Winstanley, mais nous perdons nos danses. Je ne me soucie pas beaucoup de la danse, dit Violette d'un air fatigué. Elle avait regardé tous ces objets sans les voir, elle songeait à Roderick, et se disait qu'il était pourtant bien étrange qu'il lui fût tellement étranger. Il est allé rejoindre le cercle de la duchesse, se dit-elle. Il est aussi loin de moi que s'il avait été fait évêque. Ils parvinrent à rentrer dans la salle de bal. Là, Lady Ellen Gowan s'empara de Violette et la présenta aux danseurs les plus distingués, lesquels l'invitèrent à toutes les danses jusqu'à l'heure du souper. Dans la chaîne des dames, elle reçut un gracieux sourire de Lady Mabel Ashbourne, que deux années de voyage n'avaient nullement changé. C'était toujours la sylphide, la créature éthérée d'autrefois. Elle portait une robe vert pâle, avec une parure de perles qui aurait fait honneur à une princesse. « Trouvez-vous Lady Mabel Ashbourne très belle ?» demanda Vixen à Lady Ellen Gowan, curieuse d'avoir l'avis d'une femme expérimentée et experte en pareille matière. « Non, elle est trop éthérée pour mon goût, » répondit Lady Ellen Gowan, dont la grâce était loin d'être celle d'une sylphide. « La mythologie ne nous dit-elle pas qu'un être humain devint amoureux d'un nuage ? Lady Mabel réalisera ce rêve. Ensuite, elle est trop savante. Elle pose trop pour la perfection. Elle vous cite des passages grecs et paraît tout étonnée si on ne la comprend pas. Elle finira par fonder un collège féminin. » Mais elle est fiancée à M. Vaudrey. Son cousin, quelle sottise! Tôt ou tard, ces fiançailles-là seront rompues. Un premier engagement aboutit rarement. » Violette s'en voulut intérieurement de la reconnaissance que ses paroles lui firent éprouver pour Lady Ellangowan. Elle avait vu Roderick tournoyant avec sa cousine. Elle valsait bien, sinon avec beaucoup de grâce, prenant du champ et se frayant bravement sa route à travers les couples dansants, avec une vigueur entraînante à laquelle il ne manquait qu'une nuance d'élégance. À son bras, Lady Mabel semblait emportée par le maelstrom. On commençait à se diriger vers les salles du souper. Il y en avait deux, luxueusement aménagées, avec un grand nombre de petites tables rondes, suivant la mode adoptée au moment où parut le Lothair de Disraeli. De là, plus d'espace pour les danseurs, car autour de ces tables venaient s'installer, aussi souvent que la chose était praticable, ceux qui, dans une soirée, n'appréciaient que l'occasion de se bourrer de dinde truffée, de pâté du Périgord, de saumon mayonnaise ou de fraises précoces. Violette y fut conduite par un gentleman si attentionné pour elle à ce sujet qu'elle crut tout de suite qu'il mourait d'envie de manger quelque chose. On trouva un petit coin près de trois vieilles dames. Elle mangea un petit pâté, but une gorgée de champagne et finit par quelques fraises dont le goût bizarre donnait à penser qu'on les avait prises par mégarde dans le pot à pickles. « Je crains que vous n'ayez pas très bien soupé, » lui dit son cavalier, qui s'était confortablement installé entre deux vieilles dames, et s'était copieusement offert de tout ce qu'il avait trouvé à sa portée. « Vous avez tort, et je vous remercie. Je vais faire place à d'autres. » L'infortuné jeune homme fut obligé de se lever et d'abandonner sur son assiette une forte tranche de pâté de foie gras. Quand Violette rentra, la salle de bal était moins encombrée, et sur la porte, elle rencontra Roderick Vaudrey. « Ne m'avez-vous pas réservé une seule danse ?» dit-il. « Vous ne m'en avez demandé aucune. »« Est-ce vrai ? J'ai peut-être craint de déplaire au capitaine Winstanley. Sans aucun doute, il aurait fait quelque objection. Et pourquoi donc, du moment que je n'ai aucun engagement avec lui ?»« Aucun. Vous êtes libre d'accepter qui bon vous semble ? Si j'avais su cela 2 heures plus tôt. Maintenant, votre liste est complète. » Oui, jusqu'au dernier galop auquel vous ne renoncerez probablement pas. Mais on donne une valse qui n'est pas dans le programme. Vous me l'accordez ? Elle ne dit ni oui ni non. Il prit sa main, la passa sous son bras et la conduisit au salon. Avez-vous vu ma mère ? Oui, elle trouve que j'ai grandi. Elle oublie que j'avais 21 ans la dernière fois que je la vis. Je ne pense pas qu'on grandisse beaucoup après cet âge, à moins de s'allonger indéfiniment, comme les palmiers du jardin d'hiver. Il faudra que Lord Southminster fasse élever la serre. Quelle horrible chose si j'allais devenir un géant du Norfolk. Les géants naissent tous dans le Norfolk, n'est-ce pas? Et s'il me fallait enlever le toit de Briarwood? Avez-vous vu la duchesse? Seulement de loin, je la connais à peine, vous savez bien. C'est absurde, il faut que vous fassiez connaissance, et que peu à peu vous deveniez tout à fait intime avec elle, lorsque nous serons tous des gens sérieux et mariés. » La petite main gantée posée sur son bras tressaillit légèrement. L'allusion à son prochain mariage était bien directe. « Quelle belle salle de bal! Comment trouvez-vous tous les Rubens? Magnifique, grandiose, si vous aimez Rubens. N'est-ce pas que greux et ravissant ? Il y a dans ses têtes une fraîcheur, une innocence que personne n'a encore égalée. Ces femmes ne sont pas des madones, des Hélènes ou des Junons, mais des jeunes filles sans souci, amoureuses d'un petit chat ou pleurant sur un rouge-gorge blessé. Comme il bavardait ! Était-ce l'exubérance de sa gaieté, de son bonheur ? Sans doute. Il était si heureux de vivre, si content de son sort, qu'il se laissait aller à toutes ses banalités. L'orchestre exécuta les premiers accords de Trauriges Herz, une valse mélancolique, mais d'une poétique allure. « En avant la vieille valse à 3 temps !» dit Rory. Puis ils s'élancèrent sur le parquet poli, et toutes les têtes des tableaux parurent tourner autour d'eux comme dans un kaléidoscope. « Vous rappelez-vous nos valses d'enfants dans le hall de l'abbaye ?» demanda Rory. Fort heureusement, Vixen était tournée de façon qu'il ne put voir le tremblement de ses lèvres et l'expression de tristesse qui fit pâlir ses joues. « Je n'oublie rien de mon enfance, répondit-elle gravement, la seule période heureuse de ma vie. Vous n'espérez pas me faire croire que vous avez été absolument malheureuse pendant ces deux dernières années. Vous croirez ce que vous voudrez. Vous qui connaissiez mon père, vous devez savoir. Ce cher baronnet, pensez-vous que je l'ai oublié? Ne sais-je pas que c'est une grande perte pour vous? Non, Violette, mais il y a des compensations. J'ai entendu parler de vous lorsque vous étiez à Brighton. Vous y étiez très heureuse, n'est-ce pas ? J'aimais assez Brighton, et puis j'ai eu tout le temps à Rion. Les dunes offrent de magnifiques promenades à cheval. Oui, et vous aviez nombre d'amis fort agréables. C'est vrai, nous connaissions beaucoup de personnes charmantes, et puis nous sommes allés à une grande quantité de concerts. J'ai entendu tous les bons chanteurs. Après la valse, ils allaient regarder les tableaux. La duchesse n'était pas là. « Voulez-vous venir dans le jardin d'hiver ?» demanda Roderick en arrivant au bout de la galerie. « Comme vous voudrez. » « Voilà le toit que Lord Southminster sera bientôt obligé de faire disparaître. Regardez, les palmiers grandissent encore. » Sans le parquet ciré et les ottomanes disposés dans la serre pour le repos des danseurs, on aurait pu se croire dans une solitude des tropiques. La lumière était douce, les lampes étaient cachées derrière les fleurs et les bruyères. Le dôme du milieu abritait une fontaine où Neptune, à demi caché par des plantes aquatiques, faisait sa cour à Vénus. Violette et son cavalier regardèrent les plantes tropicales et les admirèrent avec une délicieuse ignorance de leur valeur. Ces hautes tiges, ces feuilles si épaisses et si larges, ne disaient rien à Vixen. « J'aime bien mieux nos chênes et nos peupliers de la forêt !» s'écria-t-elle. « Tout est beau dans la forêt !» dit Rory. Vixen, avec une étrange sensation, comprit que c'était le moment de dire quelque chose de poli. Elle avait toujours eu l'intention de le féliciter, comme une sœur devait le faire, de ses fiançailles avec Lady Mabel. « Je suis heureuse de vous l'entendre dire, » commença-t-elle. « Combien vous devez être heureux de savoir que votre sort est irrévocablement fixé ici, doublement fixé même. Vous n'aurez en effet plus aucun intérêt à nous quitter, comme vous auriez pu le faire en épousant une étrangère. Briarwood et Ashbourne réunis feront de vous l'homme le plus important de la contrée. « Je n'apprécie pas beaucoup cette sorte d'importance, Vixen. » Ce n'est, après tout, qu'une question d'hectares. Mais je suis heureux de me savoir ancré pour la vie au sol natal. Et vous irez au Parlement légiférer pour nous et défendre notre forêt contre la destruction. Ils en ont déjà trop pris pour leurs horribles enclos. Ces enclos feront plus tard de magnifiques bois de pin. Oui, quand nous serons tous morts. Je ne songe guère au Parlement. Quand ma pauvre mère vivait, j'en avais presque envie, elle y tenait tant. Mais aujourd'hui qu'elle n'est plus là, je ne suis plus piqué de cette tarentule. J'opterai, je crois, pour l'existence d'un seigneur de province. Engraisser du bétail, c'est la forme aristocratique de la cruauté envers les animaux, dépenser une partie de mon revenu en machines agricoles, causer guano comme le duc, et aux sessions trimestrielles du jury, punir les délinquants. « Mais Lady Mabel ne permettra pas cela. Elle sera ambitieuse pour vous. »« J'espère bien que non. Je ne connais pas de plus grande calamité qu'une femme ambitieuse. »« Non, ma pauvre mère a légué ses fleurs à Mabel. Mabel l'imitera. Elle bornera son ambition aux fleurs et à la littérature. »« Elle écrit, je crois, des poésies, et quelque jour, elle sera tentée de publier un petit volume. » Et causer aux liens, arpèges, cordes brisées, choix de sonnet ou quelque chose comme cela. Vous croyez, se récria Vixen. Assurément, vous en parlez à bon escient. Vous avez lu ses vers, ou bien c'est elle qui vous les a lus. Jamais, elle est trop réservée pour cela, et je suis trop franc. Ce serait une épreuve dangereuse. Inévitablement, je dirais quelque chose de désagréable. Mabel adore Shelley et Browning. Elle lit aussi le grec. Sa poésie sera inintelligible pour moi, et mon esprit obtus se montrerait sous un jour trop défavorable. Je ne pourrais pas même avoir l'air de comprendre. Si j'étais Lady Mabel, je crois qu'il ne m'en faudrait pas davantage pour me faire renoncer à la poésie. Ce serait absurde. Mabel a pour une foule de choses des goûts que je ne partage pas. Elle aime ses serres et ses jardins, et c'est à peine si je distingue une fleur d'une autre, sauf dans la forêt, dont les fleurs sauvages me sont familières. Elle déteste chevaux et chiens, et je ne suis jamais plus heureux qu'avec eux. Elle lit Eschyle aussi couramment que je lirais un journal français. Mais à Briarwood, ce sera une admirable maîtresse de maison. Elle a cette calme supériorité qui convient à la châtelaine d'un grand domaine. Vous verrez les écoles et les cottages que nous ferons construire. Il n'y aura pas une mauvaise herbe dans nos jardins, et nos fermiers remporteront tous les prix au concours. Vous chasserez, évidemment. Naturellement, j'aurai les chasses l'année prochaine, ne le savez-vous pas ? Mabel s'y est fortement opposée, elle croyait que c'était le premier pas vers la ruine. Mais je lui ai démontré que c'était une chose tout à fait convenable pour le maître de Briarwood. Et le duc a chaleureusement pris mon parti. Les pauvres terriers, je n'y suis pas allé depuis mon retour. Je vais souvent jusqu'à la porte, très souvent, mais je n'ai pas le courage d'y entrer. Les chiens ne me connaissent plus maintenant. Il vous faudra y revenir. L'année prochaine, vous chasserez. Non, je ne chasserai plus jamais. Je n'en crois rien. J'ai entendu dire que le capitaine Winstanley est un excellent chasseur. Il désirera que vous chassiez. Qu'est-ce que cela peut faire au capitaine Winstanley ? Dit Vixen en se tournant vivement vers son interlocuteur. Beaucoup, surtout à la saison prochaine. Je ne sais vraiment pas ce que vous voulez dire. Ce fut au tour de Roderick de s'étonner. Il parut surpris et fâché. Comme les jeunes filles aiment à faire du mystère de ces choses-là, s'écria-t-il impatienté. C'est pour se donner de l'importance, je crois. Mes informations sont-elles erronées ? Votre engagement avec le capitaine Winstanley n'est-il pas chose faite, connue du moins de vos amis intimes ? Laissez-moi au moins le privilège de l'amitié. Que je sois un des premiers à vous féliciter. Quelle folie avez-vous donc entendu ? Vous, Roderick, mon camarade d'enfance, presque mon frère, me connaître si peu. Que pourrais-je connaître de vous qui pût m'empêcher de croire ce qu'on m'a dit ? Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que vous soyez engagé au capitaine Winstanley ? J'ai appris que c'était la coqueluche du pays, le favori de tout le monde. Et vous me croyez capable d'aimer le favori de tout le monde ? Pourquoi pas ? Mais c'est très possible. Et mes renseignements sont positifs. Celui qui me l'a dit vous a vu ensemble en Suisse. Tous vos amis regardent la chose comme faite. Les amis du capitaine Winstanley, voulez-vous dire? Ils ont pu croire qu'il épouserait une femme riche et que mon argent serait aussi bon que celui d'une autre. Violette, vous moquez-vous de moi? Voulez-vous me rendre fou ou dites-vous la vérité? La vérité, la pure vérité? Vous n'êtes pas fiancée à cet homme? Vous ne l'avez jamais été? Vous ne l'aimez pas? Vous ne l'avez jamais aimé? Jamais, 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 dit Violette d'un ton qui ne pouvait laisser aucun doute. Alors j'ai été le plus parfait. Il ne finit pas sa phrase et Violette ne lui demanda pas de finir. Il paraissait avoir parlé malgré lui. Assis sur le divan, il regarda silencieusement quelques instants les grands palmiers. Violette ouvrait et fermait son éventail, le regardant comme si elle ne l'eût pas encore vu. « Croyez-vous réellement que ces palmiers briseront le toit du vivant de Lord Southminster ?» demanda Roderick d'un air sérieux. Violette ne se sentit pas appelée à répondre à une question aussi théorique. « Je ferai bien, je crois, d'aller retrouver maman et Mrs. Scobble, » dit-elle. « Elles doivent être revenues du souper maintenant. » Roderick lui offrit le bras. Elle fut surprise de sa pâleur quand ils sortirent de l'obscurité. Mais après un bal, entre 2 et 3 heures du matin, un jeune homme peut bien être un peu plus pâle que de coutume. Roderick conduisit Violette à l'autre bout de la salle, où il avait aperçu le brillant costume noir et rouge de Mrs. Tempest. Il ne parla plus de la duchesse ni de Lady Mabel. Il passa même devant la duchesse, assise près d'une fenêtre avec Lady Southminster, sans faire mine de lui présenter Violette. « Le capitaine Winstanley a bien voulu s'occuper de la voiture, Violette, » dit Mrs. Tempest. Je lui ai dit que nous irions le rejoindre dans le vestibule, aussitôt que je vous aurai trouvé. Où avez-vous passé tout ce temps-là? Vous n'avez pas dansé ce lancier? Voici Mrs. Scobble, ajouta-t-elle en voyant cette dernière revenir au bras de son cavalier, sa toilette dans un piteux état. Il ne restait pas l'ombre de tulle et ses boutons de rose faisaient triste figure. Un charmant quadrille, fit-elle tout essoufflée. Je crains bien que votre robe n'ait beaucoup souffert, lui dit son cavalier. Pas du tout, répondit Mrs. Scobble. Votre voiture sera la troisième, dit le capitaine à Mrs. Tempest, tandis que Roderick enveloppait Violette dans son manteau. Il y a déjà beaucoup de monde parti. Roderick les accompagna jusqu'à leur voiture et resta sous la marquise jusqu'à ce qu'elles fussent parties. La dernière figure que Violette aperçut fut la tête pâle et grave de son camarade d'enfance. Il alla aussitôt à la salle du souper, non pour chercher une place à l'une des tables, mais pour courir au buffet et y boire d'un trait un verre de brandy. Il n'y avait cependant point d'homme moins buveur que Roderick Vaudrey. Un quart d'heure plus tard, il valsait avec Lady Mabel. C'était leur dernière danse avant de partir. « Roderick, dit-elle tout bas, comme frappée d'horreur, je vais vous dire quelque chose. Je vous prie de me pardonner à l'avance. » « C'est fait, dit-il, avec une certaine appréhension. Tout à l'heure, quand vous m'avez parlé, je me suis figuré que vous aviez bu du brandy. C'est vrai, j'en ai bu. Du brandy pur ? Tout pur. Étiez-vous malade, mon Dieu ? Non, mais un étourdissement. »